Alors, une petite page de pub avant de partager la parole de Dieu. Vous avez en vente à la librairie le livre « Changement de mentalité dans l'Église en vue d'un réveil ». Et je peux dire que je crois vraiment que le Seigneur m'a inspiré d'écrire ce livre. Vous savez, quand on est en train d'écrire, parfois, on se retrouve sous des onctions particulières dans la pièce où on sait vraiment que Dieu est dans cette pièce. On sait vraiment que Dieu nous demande d'écrire certaines phrases qu'on n'avait même pas prévu d'écrire. Donc je crois vraiment que c'est un message pour l'Église d'aujourd'hui. Je n'ai pas le monopole de message pour l'Église d'aujourd'hui. Dieu utilise d'autres hommes, d'autres livres. Alléluia. N'hésitez pas à écouter et être béni par d'autres serviteurs de Dieu. Mais je crois que ce livre, eh bien, c'est un must. Amen. Vous allez me dire, oh, il est un peu orgueilleux, là, il parle de son livre. Mais parce qu'il faut croire dans ce qu'on fait quand même. Hein? Si je vous disais, écoutez, mon livre, il n'est pas terrible, mais je voudrais que vous l'achetiez à la sortie, ça me ferait rentrer un peu d'argent, ok. S'il vous plaît, achetez mon livre, vous n'allez pas me prendre au sérieux. Amen. Moi, régulièrement, je relis mes livres. Et je me relis, je me dis, mais c'est moi qui écris ça. Et ça me fait du bien. Amen. Un autre livre très intéressant, Poursuivi par ta grâce, de Michael Réal. C'est que Dieu veut nous poursuivre par sa grâce. Il y a des gens qui ont l'impression que Dieu est toujours en train de les poursuivre avec une grosse règle en fer pour leur taper sur le bout des doigts. Eh bien, c'est pas ça. Dieu veut nous poursuivre par sa grâce. Vous imaginez l'idée d'être poursuivi par sa grâce? Tu es là, tu as tellement de bénédictions que tu sais pas quoi en faire. Et tu cherches des gens avec qui la partager. Souvent, on a tellement de problèmes qu'on aimerait bien les donner aux autres. Alléluia. Mais c'est ce qu'il dit dans Malachie. Si vous mettez en pratique ma parole, dit le Seigneur, si vous recherchez ma face, il le dit sous une autre forme, eh bien, vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et dans le texte hébreu, ça sous-entend que tu as la bénédiction, là, et que tu en as tellement qu'elle te part des mains. Alléluia, vous voulez pas arriver le dimanche matin au culte et les gens vous disent, qu'est-ce que tu as, t'es chargé, t'as des problèmes? Non, je suis chargé par la bénédiction. Et aujourd'hui, j'aimerais bien en donner à quelques personnes pour me décharger. C'est dans cette dimension que Dieu veut nous faire rentrer, veut nous poursuivre par sa grâce. Alléluia. On en a assez d'être poursuivi par l'accusation, par la culpabilité. Amen. La grâce de Dieu est suffisante pour chacun de nous. Ça ne nous donne pas un ticket pour pécher avec une bonne conscience. Mais ça veut dire que lorsqu'on a chuté, eh bien, il y a un accès. Il y a toujours un accès avec Dieu. Alléluia. Alors, il y a des CD d'enseignement aussi. On les a vraiment pas mis cher pour qu'ils soient à la portée de tout le monde. Ce sont des enseignements qui sont donnés dans ces séminaires, les enseignements les plus particuliers. Un des enseignements particuliers qui a été donné lorsque nous étions à Reims, c'est mort et résurrection de ses rêves. Le diable, il a tué, n'est-ce pas, beaucoup de nos rêves, ou alors il nous a chargé de beaucoup de nos rêves qu'on n'a pas réussi à vivre, et c'est nous qu'il faut les tuer pour qu'ils puissent mieux ressusciter. Et ça parle de cela, ce CD d'enseignement, et cet autre CD qui se rapporte vraiment au temps dans lequel nous vivons, renverser la situation. Le diable a attaqué l'Église, il a harassé les serviteurs de Dieu et leurs familles, il a tué, il a frappé par la maladie, par le manque financier, mais il est possible de retourner la situation. Et de toute façon, pour que l'Église devienne glorieuse, il va falloir qu'il se lève un peuple qui retourne la situation. Donc, j'ai pas d'autre choix, je suis condamné à prospérer, toi aussi.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Amen. Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, tu es condamné à prospérer. C'est une bonne condamnation, ça. Ok ? Nous acceptons cette condamnation. Celle-là, on l'accepte. Donc, nous avons parlé de réforme. Nous avons parlé de trois temps dans lesquels nous devons entrer. Un premier temps, c'est le temps de la réforme qui va engendrer un temps de rafraîchissement dont il est question dans l'Écriture et qui va engendrer à son tour un temps de réveil. C'est la loi des trois R. Donc, est-ce que cette notion de réveil dont on entend parler depuis longtemps, d'un grand réveil, d'un réveil planétaire, est-ce que c'est utopique ou est-ce que ça correspond réellement à la vérité de l'Écriture? Est-ce que Dieu est en train de préparer dans ces temps? Bien, moi, je crois qu'il y a un grand réveil qui vient sur le monde et que plusieurs points vont caractériser ce réveil. C'est qu'il dépassera par son ampleur, premièrement, tous les réveils précédents. C'est que c'est le dernier réveil avant la venue de Jésus-Christ. Et c'est qu'à l'apogée de ce réveil, justement, Jésus viendra chercher son Église parce qu'il estimera qu'elle sera prête à être enlevée. On parlait avec un frère l'autre jour, beaucoup de gens nous disent aujourd'hui, Jésus peut revenir à chaque instant. Non, il peut pas revenir à chaque instant parce qu'il a besoin que l'épouse soit prête. Amen. Et je crois que c'est pas dans 5 ans non plus. On a quelques bonnes années devant nous pour préparer l'épouse. Alléluia. Et moi, j'ai pas envie qu'il revienne demain. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore vécu tout ce que je veux vivre. Je sais pas. Moi, je serais frustré si demain Jésus revenait. Je lui dirais, Jésus, tu pouvais pas attendre un peu plus tard? Je veux vivre encore des trucs super avec mon épouse, avec mes enfants, avec les gens avec qui on travaille. Je veux voir ces séminaires se développer. Ces séminaires sont pas arrivés au stade où je veux qu'ils arrivent. Amen. Où tous les gens sortent guéris et délivrés. Donc, je veux pas qu'ils reviennent encore. Amen. Ne reviens pas encore, Seigneur, s'il te plaît. Dans Matthieu 24, 14, il nous est dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier avant le retour du Seigneur, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La bonne nouvelle, l'évangile, a toujours été annoncée au cours des âges. Mais ici, il est fait allusion à une proclamation plus vaste, qui précède les temps de la fin. Les temps de la fin sont eux-mêmes précédés par l'enlèvement de l'Église, mais ça serait le thème de notre enseignement, peut-être le thème d'un séminaire un jour. Dans Actes 2, 17, nous lisons, « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Alors ce « toute chair », il fait allusion pour moi à une très grande quantité de personnes et d'âmes. Jésus a assimilé la fin des temps à une moisson. Plusieurs réveils ont été suscités au cours des âges, et on peut dire que chacun de ces réveils a mis en évidence un ou plusieurs points particuliers de l'Évangile. Luther, il a redécouvert le salut par la foi à une époque où on achetait le pardon de ses péchés et on achetait sa place au ciel. Vous vouliez une bonne place au ciel, vous ne vouliez pas vous retrouver sur un strapontin, vous pouviez acheter votre place au ciel. Hein, c'était pas mal ça. Il est évident qu'au sein de toute cette obscurité, Luther paraît avec ce qui est pour nous, comme disait Michael, aujourd'hui une petite révélation, le salut par la foi. Amen. Et Michael a raison, aujourd'hui la plupart d'entre nous, nous en connaissons plus que les revivalistes de cette époque. Et nous devons profiter de cette connaissance. Daniel a dit dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Et comme la foi vient de ce qu'on entend et donc de ce qu'on connaît, plus de connaissances entraîne une foi plus précise et plus efficace pour produire plus de miracles. Donc nous sommes dans des temps où nous sommes tous des hommes et des femmes avantagés, pas désavantagés. Anabaptiste, baptiste, mirent en plus du salut l'accent sur le baptême par immersion pour les adultes, parce que les luthériens baptisaient encore les enfants. John Wesley, à travers le réveil méthodiste, il a mis en évidence la sanctification qu'ils appelaient la seconde sanctification. C'est une chose d'être sauvé par grâce, mais on doit quand même produire des œuvres qui sont agréables à Dieu. Simplement, on ne doit pas les produire parce qu'on plie sous la loi des œuvres, mais parce que l'amour qu'on a pour Dieu nous pousse à vouloir lui plaire. Vous voyez la différence? Le réveil du pays de Galles, il a démarré à travers le ministère d'Evans Roberts. À travers, par la suite, les frères Williams, qui ont mis l'accent sur les ministères d'apôtres et de prophètes. On a redécouvert les ministères d'apôtres et de prophètes à l'époque des frères Williams. Le réveil aussi lié au nom d'Azusa Street aux États-Unis a mis l'accent sur le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Pour nous, le parler en langue, c'est une évidence aujourd'hui. Les gens, ils se faisaient lapider presque par les autres chrétiens parce qu'ils parlaient en langue à l'époque. Vous voyez l'avantage que nous avons, nous bénéficions de ce qu'ont fait les autres, de ce qu'ont souffert les autres, alléluia, nous en bénéficions aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons respecter tous ces revivalistes, tous ces mouvements qui sont passés avant nous, amen. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir ce qui n'a pas marché pour eux aussi, et faire les rectifications nécessaires en ce qui concerne ces temps, alléluia. Le mouvement pentecôtiste aussi a mis l'accent sur la guérison divine et beaucoup de ministères d'évangélistes sont parus. Le réveil charismatique par la suite, pendant lequel Dieu a visité les églises traditionnelles, a insisté sur les dons de l'esprit. Et les temps qui ont suivi le réveil charismatique, on peut les qualifier de temps du plein évangile. Il y a eu des mouvements comme les hommes d'affaires du plein évangile, qui étaient vraiment des mouvements inspirés, utilisés par Dieu pour sauver des milliers de personnes. Dans tous les milieux. À chaque réveil, et parce que je ne les ai pas tous cités, vous comprenez, je n'ai pas le temps, Le Saint-Esprit permettait aux hommes de comprendre et de développer un appel particulier du message de l'Évangile à une échelle plus grande et, je peux dire, d'une manière plus officielle. Et au fur et à mesure des visitations du Saint-Esprit, les nouveaux qui sont arrivés ont gardé l'acquis de ceux qui les ont précédés. Toutes ces connaissances, toutes ces révélations sont comparables à un escalier, chaque fois un tremplin qui nous amène au réveil des derniers temps pour amener l'avènement du Seigneur. L'onction de ce réveil qui arrive étant plus forte, toutes les connaissances et manifestations de l'Esprit qui ont été apportées dans les réveils précédents vont être condensées dans ce seul réveil. Donc nous sommes une génération avantagée. Nous devons nous réjouir de vivre dans les temps dans lesquels nous vivons parce que nous allons voir le plus grand réveil que la terre a jamais vu. Toutes ces connaissances vont être annoncées d'une manière plus précise, vont produire des fruits plus puissants, vont être répandues dans une mesure beaucoup plus vaste. Le monde entier aura entendu parler de l'Évangile et sera à la portée de plus de chrétiens qui vont former une armée puissante. Moi, je crois qu'il est important de s'intéresser à ce que d'autres personnes reçoivent de la part de Dieu, tout en étant toujours prudent, n'est-ce pas? Mais aucun de nous ne peut recevoir toutes les révélations. Nous avons besoin de l'ensemble du corps et des ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes et autres qui ont été placés dans le corps. Simplement, nous devons faire attention et devons choisir en qui nous reconnaissons la vraie voix de Dieu. Et qui sont les gens qui se font peut-être du cinéma et qui, si on les écoute, par contre, pourraient nous entraîner dans leur délire. Et moi, il y a toute une catégorie de prophètes et d'hommes de Dieu auxquels je me suis intéressé. Et j'ai peaufiné dans mes cours et mes enseignements les révélations qu'ils ont reçues et qui sont en accord avec l'Écriture et avec ce que j'ai reçu moi-même. Alléluia. Mais ces gens nous apportent des détails qui sont importants à connaître. Donc j'aime bien les citer. Robert Liardon, un homme de Dieu, a été enlevé au ciel lorsqu'il avait 8 ans. Et parmi les diverses choses qu'il lui fit donner de voir, si je peux avoir un peu d'eau, merci. Il raconte qu'il y avait un lieu où se trouvaient des bras, des yeux, des jambes. Il a dit, oh, c'est bizarre ça, au ciel, une grande salle avec des membres. Il a demandé à l'ange qui se trouvait là, mais c'est pourquoi tous ces membres-là? Et il lui fut répondu, ce sont tous les membres dont les gens ont besoin sur la terre, ceux qui sont infirmes, ceux qui sont malades. C'est tout prévu dans le ciel parce que tout a été pourvu lorsque Jésus est mort et qu'il a dit tout est accompli. Tout a été pourvu pour tous les chrétiens et même pour tous les non-chrétiens qui viendront jamais à Christ. C'est déjà prêt dans le ciel. Lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, eh bien, il ne va pas l'inventer de suite. C'est déjà tout prêt, tout a été accompli. Tout est prêt pour vous. Amen. Or, dans peu de réveils, et ça s'est vu, mais dans des courtes périodes, le don de miracle a été manifesté aussi puissamment au point que les membres se mettent à repousser. Ça s'est vu, bien sûr. Mais dans les temps dans lesquels nous allons rentrer, je vais y revenir tout à l'heure en citant Kenneth Hagin, nous allons voir des choses fantastiques, des choses qu'on n'a jamais vues. Glenn Foster, un homme de Dieu, a prophétisé au sujet de ces temps. Chaque dimanche, les miracles seront là. Chaque jour, la puissance coulera à flot dans chaque direction, accompagnant votre travail. Vous verrez la prospérité de Dieu. Il précise que nous ne devons pas écouter plusieurs prophètes de malheur qui se lèvent au sein du peuple de Dieu, disant que tout va aller mal, que l'Église va être presque détruite, mais que ce sont des temps, au contraire, de prospérité pour l'Église. Bien sûr, le mal va continuer à aller de l'avant aussi. Amen. Mais ces temps de réveil vont voir le mal être englouti par la gloire de l'Église. C'est seulement, beaucoup de gens confondent les temps de la fin, c'est seulement lorsque l'Église aura été enlevée que le diable pourra faire ce qu'il veut faire. Et là, l'Église qui restera aura vraiment beaucoup de mal à rester debout. Mais Dieu continuera quand même à visiter son peuple. Alléluia. Vous savez, au même point que les serpents des magiciens qui se sont manifestés et qui se sont opposés à la puissance de Dieu ont été engloutis par le seul serpent de Moïse la puissance de l'adversaire qui est en train de se dresser et qu'on voit tous les jours à la télévision, partout autour de nous, pour nous impressionner et nous intimider, va être engloutie par la puissance qui va caractériser l'Église qui se lève. C'est comme ça que je conçois l'Église. Sinon, c'est une pauvre petite Église qui fait peine, hein, qui fait pitié. Amen. Vous savez, souvent, les gens, ils vont consulter les cartomanciennes, les diseurs de bonne aventure, parce que parfois, il n'y a pas l'esprit prophétique assez puissant au milieu de nous. Amen. Mais c'est nous qui devons venir consulter. Ce sont nous les vrais voyants. Amen. Les prophètes dans l'Ancien Testament étaient appelés les voyants. Aujourd'hui, ce sont les gens qui pratiquent l'occultisme qui sont appelés les voyants. Mais ce titre, il est à nous au départ. Amen. D'ailleurs, moi j'aimerais qu'il y ait des gens qui osent. Vous allez dans un festival de la voyance, vous mettez votre tente et vous marquez « voyant de l'Éternel ». Et les gens viennent à vous consulter, non pas que vous, pour que vous manipuliez leur vie, parce que nous ne marchons pas selon ces principes, mais pour que vous leur donniez des paroles d'encouragement de la part de Dieu, que vous priez pour Dieu, que vous puissiez leur dire « Le Seigneur, il te dit telle et telle chose ». Amen. On a peur du monde, on reste parfois enfermé dans notre église, on a peur du monde et on ne se rend pas compte que le monde, au bout d'un moment, il est rentré dans l'église. Mais c'est à nous d'aller dans le monde, alléluia. Tu peux rentrer dans un café, ça ne veut pas dire que tu es obligé de boire 3 litres de bière. C'est toi qui dois changer l'ambiance, tu ne dois pas avoir peur du café. Amen. C'est vrai, il y a des... À la télé, c'est vrai qu'il y a des émissions débiles, alléluia, où on enferme les gens dans un appart pendant plusieurs jours. Mais ça serait bien qu'il y ait des chrétiens qui s'inscrivent pour relever le niveau. Tout ce qu'on sait faire, c'est « Oh, c'est débile !» Au lieu de critiquer, inscris-toi et tous les jours, tu es filmé pour pouvoir rendre témoignage à Jésus-Christ. Et nous, on a cet esprit religieux, là, ah, c'est le monde, mais c'est pas dans le monde qu'il faut aller annoncer l'évangile. Non, est-ce que vous me suivez? Ça aussi, ça demande un changement de mentalité. Il faudrait devenir peut-être un peu plus bizarre. Alléluia. Moi, je trouve que c'est un compliment lorsque quelqu'un vient nous trouver et nous dit, ben, tu... T'as pas l'air d'être un pasteur classique ou t'as pas l'air d'être un chrétien classique. Parce qu'en général, ce qu'ils veulent dire par classique, c'est pas toujours valorisant, vous savez. Ok? Et parce que Dieu est unique et chacun de nous est unique, chacun de nous est spécial. Dieu ne fait pas de photocopie. Amen? Donc, développez et ne vous laissez pas voler ce don merveilleux qui est le don de la personnalité. Quelqu'un est venu me trouver hier, mais j'ai droit à cette question chaque fois, mais bien intentionné. Pourquoi t'as une queue de cheval? Oh, je l'ai par internet, je l'ai, c'est une question presque toutes les semaines. Okay. Ben, je lui ai dit, parce que pendant des années, tu vois, j'ai été pasteur, je me suis efforcé d'être un pasteur classique, et j'ai rien contre l'aspect de beaucoup d'hommes de Dieu, alléluia. Mais pour moi, ça correspondait pas à qui j'étais. Chaque fois que je me levais, je me regardais dans la glace et je me disais, je fais ça pour plaire aux chrétiens qui m'entourent, je fais ça pour plaire aux gens, je fais ça pour correspondre à certaines normes, mais c'est pas moi. Et c'est même pas celui que ma femme allait épouser. C'est encore plus grave. Alors je lui ai dit, tu vois, ça c'est pas le personnage, ça c'est moi. Je me crée pas un personnage, ça c'est moi. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, Dieu vous a créé pour être quelqu'un. Amen. Et de toute façon, c'est pas pour ça que, parce que je presse ces choses-là, que vous devez tous vous faire pousser une queue de cheval. Ça t'irait très mal. Hein? Tu restes comme ça, tu es très bien comme ça. C'est la diversité qui est un don. Amen. Moi, j'aime voir la diversité. La diversité et la différence, c'est un don de Dieu. C'est un droit que nous avons, la différence. Vous avez vu dans les sectes, vous avez vu dans les pays où il y a un mouvement totalitariste qui gouverne, les gens perdent leur personnalité. En Chine, à une époque, ils s'habillaient tous en bleu de travail, hommes, femmes, ils avaient tous la même coupe de cheveux. On brise la personnalité des gens. Le diable veut briser la personnalité des gens. C'est démoniaque de briser la personnalité des gens parce que Dieu nous a créés à son image. Et l'image, c'est un facteur d'épanouissement. Donc Dieu veut briser votre image. Vous avez vu les témoins de Jéhovah, vous en voyez un avec la petite mallette, vous les voyez tous. Vous avez vu les mormons, vous avez des mormons ici? Chemise blanche, ok? Pantalon, vélo, cravate. Ils ont l'air d'être, de sortir d'usine. Ça c'est une œuvre de dépersonnalisation. Tu n'es pas mormon toi? Non. Ça c'est une œuvre de dépersonnalisation. Amen? Pour moi c'est démoniaque. Il y a des principes qui sont dans nos églises, ce sont les mêmes principes qui sont mis en application dans les sectes. Ce sont des principes de manipulation qui brisent la personnalité et l'identité des gens. Or, Jésus est venu pour nous libérer. Alléluia. Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais c'est au moins la liberté d'être bien dans sa peau. Amen. Parce que moi, je me mets à la place des inconvertis. Quand ils voient des chrétiens mal dans leur peau et malheureux dans ce qu'ils vivent, ils n'ont pas envie de se convertir. Amen. On est dans la logique. Donc, personne ne vous demande de devenir moi. Je n'ai pas envie de devenir vous, mais laissez-moi être moi et soyez vous. Ah, c'est pas mal comme ça, ouais. En plus, c'est la mode, hein. Mais pour être vous, il faut découvrir qui vous êtes dans le plan de Dieu. Amen. Quand vous vous levez le matin, il faut savoir si vous avez été programmé par quelqu'un ou par quelque enseignement nouveau ou si vous êtes vraiment qui vous êtes supposé être. Tu aimes les pantalons que tu mets? Si tu les aimes, garde-les, même s'ils ne se plaisent pas à tous les autres. Mais si tu les mets simplement pour faire comme tous les autres dans l'assemblée, eh bien, ta personnalité a été détruite. Alléluia! Alors on est d'accord, le royaume de Dieu c'est plus que des pantalons. On est d'accord là-dessus? Mais ça n'empêche pas que l'identité, c'est quand même un facteur d'épanouissement. Alléluia! C'est pour ça que Dieu nous a créés tous différents. C'est pour qu'on comprenne notre différence. Et les thèmes majeurs de ces séminaires, ce sont la destinée, l'identité et la diversité. Amen! Moi, ça me réjouit quand je vois qu'il y a un frère de couleur noire, alléluia, qui a une sœur gitane qui travaille avec nous. Ma femme est anglaise. Je suis content. Je suis content. On n'est pas là juste à tous se ressembler. On n'a pas l'impression de tous être les païanistes, vous savez. Puis un jour, je mets un jean, un jour, je mets un costard, un jour... Je fais ce que je veux. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, je fais ce que je veux. Enfin, dis-moi, à partir d'aujourd'hui, peut-être pour certains. La Bible dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été affranchis par Jésus-Christ, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Notre monde est en train d'entrer dans une période de paradoxe. Les ténèbres sont en train de se répandre. Mais de notre côté, la lumière de Christ est en train de briller de plus en plus. Et je prie qu'elle brille dans nos cœurs pendant ce séminaire. Alléluia. Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Oui, Seigneur, et alors? Et Dieu s'affole pas, il dit, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ouais, ça va mal. Et alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous verrez que tout va mal, ne vous inquiétez pas. Ne faisons pas comme les gens du monde. C'est pas parce qu'ils font tout à la télé pour nous faire peur que nous on doit rentrer dans ce schéma. Ah, tout va mal. Non! Il y a des bonnes choses qui arrivent pour nous. L'église de Jésus-Christ. Le mal va devenir de plus en plus mauvais, le bien on pourrait dire de mieux en mieux. Et aussi, on va voir de plus en plus clairement, que ce soit dans le monde ou dans l'église, chez les individus, la différence entre la lumière et les ténèbres. Moi, j'aime ce verset de Malachie 3:18. Écoutez ça. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Souvent, aujourd'hui, on ne voit pas la différence. Les chrétiens ont les mêmes problèmes que les gens du monde. Amen. Parfois, ils font les mêmes bêtises. On ne voit pas la différence. Moi, je veux voir la différence. Et il y a des tas de gens super au sein de nos assemblées. Par contre, il y a des tas de malheurs qui leur arrivent. Ils n'ont rien fait de mal, au contraire, ils ont tout fait pour s'approcher de Dieu. Et parfois, c'est là qu'ils tombent sur un chrétien qui leur dit « Oh, t'as dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas, t'as manqué de foi. » Non. La Bible nous montre que c'est vrai, on peut ouvrir une porte à Satan parce qu'on marche dans le péché, on fait des choses qu'il ne faut pas, c'est vrai. Mais la Bible nous dit aussi que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc quand on essaie de s'approcher de Christ, le diable se lève aussi pour essayer de nous frapper. Donc il y a des gens qui sont frappés parce qu'ils se sont approchés du diable, mais il y en a d'autres qui sont frappés pour la raison complètement contraire. Et on doit faire attention de ne pas juger les gens, amen. Parce que peut-être nous, il ne nous est pas arrivé les attaques qu'ils ont subies parce qu'on ne s'est pas levé comme eux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais dans les temps dans lesquels nous sans montrer, nous devons nous unir, parce qu'on n'arrive pas tout seul, pour renverser ces situations. On doit se porter les uns les autres. Alléluia. On doit avoir une église forte qui, au lieu de se disputer, prie. C'est facile de critiquer quelqu'un. On peut critiquer tout le monde. Alléluia. Amen. Il suffit que je passe 24 heures avec vous, je verrai ce qui ne va pas chez vous, vous verrez chez moi des choses que vous aurez envie de critiquer. Amen. Mais c'est moins facile de prier pour les gens, de passer du temps sur les genoux pour les gens. Alléluia. Et de leur vouloir du bien. Mais c'est de cette race de chrétiens dont nous avons besoin dans ces temps. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu fut enlevé deux fois au ciel. Je crois que c'est Robert Liardon d'ailleurs. Durant sa vie. Donc, il raconte que la première fois, il avait vu dans un lieu des chars de feu en grand nombre. Et la deuxième fois qu'il a été enlevé, plusieurs années après, il s'est étonné de ne pas voir ces chars de feu à l'endroit où il les avait vus. Et il lui fut expliqué que ces chars de feu avaient quitté le ciel pour la terre en vue d'un réveil qui devait s'y répandre. Wouh ! Ha ! Le réveil est en train de se répandre progressivement par vagues successives. Je crois que c'est un temps de, écoutez bien ce mot, positionnement. Ce que Dieu nous demande dans ces temps, c'est pas encore de vivre le réveil, c'est de se positionner en vue de ce qui est en train d'arriver. Un jour, j'ai eu une vision, c'était très clair, et j'ai vu un échiquier. Sur cet échiquier, bien, tous les sujets avaient été renversés. Ils avaient été renversés par un vent. Et sur le coup, j'ai eu le réflexe de dire au Seigneur, qu'est-ce que le diable il a fait? Le Seigneur m'a dit, non, ça c'est pas le diable. C'est moi qui ai renversé ces pions. Amen. Parce que je veux les repositionner. Et il y a beaucoup de gens que j'ai permis qu'il arrive des choses pour les renverser. Parce que je veux les repositionner. Parce qu'ils sont mal positionnés. Et s'ils sont mal positionnés, ils seront pas prêts à jouer au temps du réveil. Alors vous pouvez rendre grâce à Dieu certains pour des choses même peut-être désagréables, pas tout le monde, ça représente pas toutes les catégories, mais qui vous sont arrivées, alléluia. Parce que si ces choses vous ont ouvert les yeux sur une nouvelle réalité des temps à venir, amen, ces choses désagréables sont une bénédiction. Parce que ça va vous permettre de vous repositionner lorsque le réveil va venir et d'être utilisé par Dieu là où beaucoup de mouvements et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu vont voir leur réveil leur passer sous le nez. Pourquoi ? Je peux être peut-être direct, quitte à choquer. Moi, j'aime les âmes. Je sais que Dieu aime les âmes. Et je ne me sens pas d'envoyer des milliers d'âmes aujourd'hui dans certains lieux où ils vont être asservis plutôt qu'affrangés. Je veux qu'il y ait des églises, comme me disait un jeune homme, le jeune homme qui fréquente ma fille actuellement, je veux créer une église dans laquelle j'ai envie d'aller. Ça veut tout dire. Et moi, je veux envoyer les gens qui se convertissent dans les séminaires ou ailleurs à un endroit, bon, il y en a déjà, attention, hein, mais dans des tas d'endroits où je sais qu'on va prendre soin d'eux. Alléluia. Où je sais que ces personnes, eh bien, elles vont s'épanouir. Elles ne vont pas être reasservies. Ouh ! Quelqu'un reçoit quelque chose ce matin ?
Amen.
Dans Apocalypse 19:7, il nous est dit que son épouse s'est préparée. Christ vient chercher une épouse prête. Verset 8, il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez ? C'est nous qui préparons l'épouse par les œuvres justes que nous accomplissons. Et les œuvres justes correspondent à la destinée dans laquelle Dieu nous appelle à marcher chacun. D'une manière individuelle et en tant que corps. Ouh, c'est-à-dire une église qui manifeste puissamment les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, dans laquelle évoluent également les saints ministères et bien d'autres. Une épouse qui manifeste au grand jour le plein évangile. Alléluia. Ouh, Rick Joyner a eu une vision dans un de ses livres-là, vraiment formidable. Il a vu plusieurs corps d'armée qui faisaient partie du corps de Christ à ce jour et qui avançaient. Il a vu qu'il y avait, je crois, trois corps d'armée. Mais ces corps d'armée, eh bien, ils étaient très différents. Ils voulaient tous servir Dieu, aller à la bataille, mais il a vu que certains, ils se disputaient tellement entre eux qu'en fait, ils faisaient plus de mal à l'ensemble du corps que de bien. Ils empêchaient plus l'armée d'avancer qu'autre chose. Et pourtant, ils voulaient avancer, mais ils s'arrêtaient tous pour se battre, pour être jaloux, alléluia. Et partout où ils marchaient, eh bien, ils foulaient la terre et c'était pas très beau après, ok? Il a vu un autre corps d'armée où les gens étaient plus disciplinés. Ils étaient moitié sous la grâce, moitié sous la loi. Donc, ils étaient plus, permettez-moi l'expression, utilisables par Dieu. mais c'était pas vraiment ce que Dieu voulait. Et puis il a vu ce premier corps d'armée, mais qui était bien détaché des autres. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier sur les alliances et les tribus, qui était bien détaché des autres, qui était au premier plan, et leurs armures, elles rayonnaient. Et ces gens, ils avaient peur de rien. Et puis ce qui soudait ces gens, c'était l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Et chacun allait, comme il est dit dans Joël, il allait en marchant et en suivant son sillon. Alléluia. Parce qu'il respectait l'appel de l'autre, il respectait la personnalité de l'autre. Il s'est rendu compte, en fait, qu'un soldat dans cette armée, il valait plus qu'un général dans les autres armées, dans les autres groupes d'armées. Amen. Alors je ne sais pas, vous choisissez dans quel groupe vous voulez être. Moi je sais que je veux être devant. Je veux avoir une cuirasse qui brille, alléluia. Je veux être quelqu'un qui n'a pas peur du diable. Amen. Rappelez-vous, repartez de ce lieu et vous dites, dans quel corps d'armée je choisis d'être? Parce que ceux qui étaient dans les deux corps suivants, ils n'avaient même pas le droit, dans le plan de Dieu, de se trouver même comme un soldat dans le premier corps d'armée. Et je termine, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Hein? D'ailleurs, moi, ça m'a mis l'eau à la bouche. À vous parler de ce grand réveil qui vient, en partageant ses visions d'homme de Dieu. C'est important d'avoir d'autres témoignages que nos témoignages. Alléluia, je peux vous parler du réveil, mais si des hommes qui sont d'authentiques serviteurs de Dieu, qui ont porté du fruit, dont les ministères ont été confirmés, amen, ont eu ces mêmes visions et nous donnent des précisions, c'est important. Vous voyez, on n'est pas là sectaire, annoncé, souffle nouveau, a tout compris, non. Il y a un message qui concerne tout le corps, là. Et l'expression de plusieurs ministères. Maintenant, ce qui peut paraître la douche froide, façon de parler, après un tel message, c'est de nous dire que si ce réveil n'est pas loin de nous, à ce jour, ce n'est pas le temps pour un réveil. Donc je ne pense pas que vous allez rentrer chez vous et le réveil va démarrer ni dans votre église, ni dans votre entourage. À ce jour, un réveil serait peut-être ce qui pourrait nous arriver de pire. Vu les divers phénomènes qui se produisent lors d'un réveil, que j'ai partagé dans ce chapitre, dans ce message, si l'Église n'est pas prête pour l'assumer, il causerait sa destruction en venant maintenant. Vous savez, un réveil, c'est une vague. Si on n'est pas prêt à surfer la vague, elle vous emporte et elle vous noie. Il y a des églises qui ont prié pour un réveil pendant plusieurs années. Quand le réveil est arrivé, l'Église, elle a subsisté 6 mois. Il s'est passé des choses fantastiques, mais un réveil, ce sont les miracles et les prodiges, c'est aussi le jugement de Dieu. Vous avez vu Ananias et Saphira, c'était un temps de réveil, hein? Ils ont raté leur offrande. Hein? On aurait un réveil aujourd'hui, peut-être. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche dans l'église? Peut-être notre témoignage, ça ne serait pas de dire il y a eu 10 guérisons, 10 paralytiques qui se sont levés des fauteuils roulants. Le Seigneur vous a visité, oui, qu'est-ce qui s'est passé? 10 morts. Moi, je prie pour que l'instant, le Seigneur, il visite pas trop fort mon assemblée. Alléluia. Je veux d'abord qu'elle assimile ce qu'on enseigne là. Alléluia. Je veux qu'il y ait des gens qui apprennent maintenant à veiller sur les portes de leur bouche. Parce que la Bible dit que leur parole les détruit. Amen. Je veux que des gens se comportent de mieux en mieux les uns à l'égard des autres. Qui viennent à l'église pour donner le meilleur à Dieu et pas le pire. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier le Seigneur, chacun à sa manière? Vous voulez fermer les yeux, vous voulez les garder ouverts, vous voulez lever vos mains, vous voulez vous mettre à genoux. Juste faites ce qui correspond à ce que vous avez envie de faire à cet instant. Ne regardez pas autour de vous en train de vous dire « Oh, il n'y a personne à genoux, pourtant j'aimerais vraiment être à genoux devant le Seigneur, donc je ne vais pas me mettre à genoux, de quoi je vais avoir l'air ?» Ne arrêtez ces considérations, sinon vous avez la crainte des hommes. Nous sommes appelés à avoir la sainte crainte de Dieu. Peut-être quelqu'un, il a envie de se mettre à plat ventre. Eh bien, les prophètes, ils faisaient ça. Mettez-vous à plat ventre devant la face de Dieu. Quelqu'un a envie de se lever, d'étendre les mains vers lui. Quelqu'un veut fermer les yeux, c'est biblique. Quelqu'un veut ouvrir les yeux, c'est biblique aussi. Jésus priait les yeux ouverts, souvent il rendait grâce. Et nous, on veut toujours faire des règles absolues, des boîtes dans lesquelles on veut faire rentrer tout le monde. Exprimons la diversité ce matin de notre louange. Exprimons la diversité de notre identité et de notre appel. Dieu n'est pas venu nous voler notre identité. Il est venu nous aider à la redécouvrir. Alléluia. Dieu veut que nous connaissions qui il est, mais il veut qu'on connaisse aussi qui nous sommes. Il veut nous révéler qui nous sommes. Les hommes sont en panne, en manque d'identité dans cette société. Oh Seigneur, tu aimes ton peuple, il aime chacun de vous d'une manière particulière. Si Jésus avait dû venir simplement mourir pour un seul d'entre vous, il serait venu quand même sur cette terre mourir. Vous n'êtes pas sauvés en vrac avec les autres. Vous êtes précieux.